Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler d'un élément dont on n'a pas beaucoup entendu parler jusqu'à présent, qui est un élément indésirable, mais qui pose de plus en plus de problèmes en termes d'agriculture. Plus de questions, pardon. Voilà, donc mon exposé va faire un petit bilan à partir de données de la bibliographie ou de données du laboratoire, et puis donner quelques pistes sur la gestion, proposer aussi des résultats qui posent des questions et qui bousculent un petit peu les idées reçues concernant cet élément. Alors, pour commencer, d'où provient cette problématique cadmium ? Tout bêtement, cette problématique cadmium, elle provient du contenu de votre assiette. Pour les non-fumeurs, en effet, l'exposition au cadmium est majoritairement liée à votre alimentation. Et vous voyez ici le résultat donc, de l'étude de l'alimentation totale qui a été menée par l'ANSES en 2011. Et à partir de cette étude, on voit que les contributeurs majoritaires sont les produits végétaux, et essentiellement les céréales et les pommes de terre et autres légumes et fruits. Et le résultat de cette étude a montré que par rapport à la première étude de 2004, on avait une exposition au cadmium en hausse qui indiquait qu'il y avait un risque à ne pas négliger. Parallèlement à cette étude, ça a été menée donc une étude de l'EFSA, l'autorité européenne, et un avis a été produit en 2009 indiquant que l'EFSA proposait hebdomadaire tolérable passe de 7 mg par kilogramme de poids corporel par semaine, ce qui était proposé par l'OMS, à 2,5 microgrammes par kilogramme de poids corporel et par semaine, afin de protéger la totalité de la population. Or, cette exposition, ce seuil, est proche de l'exposition qui a été mesurée en France ou dans d'autres pays pour, je dirais, le 95e percentile. Donc, la Commission européenne a commencé à réfléchir à baisser les limites réglementaires sur tous les aliments, et en particulier sur les aliments majoritairement contributeurs. Et là, ça commence à nous poser des questions au niveau agriculture. Alors, d'où vient ce cadmium ? Ce cadmium, il a premièrement une origine naturelle. Il provient des roches. Donc, suite à la pédogenèse, il va s'accumuler dans les sols. Il va être émis dans l'air par des émissions volcaniques, donc retomber au sol. Mais à cela s'ajoute aussi une origine anthropique liée à des émissions industrielles, liée aussi aux intrants agricoles. Et pour les intrants agricoles, alors d'abord l'origine atmosphérique, pardon. Voici ici la simulation des dépôts à l'échelle européenne en 2011. Vous voyez que pour la France, les dépôts sont relativement restreints. Ils sont simulés entre 5 et 50 grammes par kilomètre carré et par an. Et en 2011, une simulation a été faite dirigée vers les parcelles de grandes cultures. Et là, on tombe à 5 à 20 grammes par kilomètre carré et par an. Donc, cette contribution atmosphérique, et vous le voyez ici sur le graphique qui est issu de l'étude de l'ADEME qui a été menée par le SOGREA en 2007. Donc, cette contribution atmosphérique ici présentée en bleu, est relativement faible par rapport à ce que vous voyez apparaître en gris, qui sont les engrais minéraux et qui sont les contributeurs majoritaires des flux de cadmium au sol agricole, le second contributeur étant les déjections animales. Alors, ça pose d'autant plus un problème que les sols sont des accumulateurs de métaux. On ne peut pas imaginer qu'il y a une dégradation, non, c'est un élément, il va s'accumuler. On considère que les pertes vers les nappes, généralement, sont inférieures à 1% des apports annuels. Et comme c'est illustré ici sur l'étude qui a été menée en Angleterre sur l'essai de Ross Homestead, on a donc une accumulation progressive du cadmium dans les sols. Qu'est-ce qu'il en donne ? Quel est le résultat sur le sol français ? Ce résultat, il a été obtenu grâce au RMQS, et vous voyez qu'on a des concentrations qui sont variables suivant les régions. Cette concentration, elle est due à la nature de la roche. également à la pédogenèse, mais aussi aux sources externes de contamination. Cependant, j'attire votre attention sur le fait qu'une concentration est simplement un indicateur de présence d'un élément. Et ça, c'est une notion vraiment importante que je voudrais faire passer, c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre la concentration dans le sol et la concentration dans les organes végétaux. Alors, pourquoi cela ? On l'illustre déjà par des résultats obtenus au champ. Alors, c'est des résultats que reconnaîtront Denis Bèze et Jean-Marie Baudet, qui sont un petit peu anciens, qui ont été obtenus avec Arvalis dans les années 2000, mais qui ont été confirmés depuis par d'autres études. Et vous voyez très clairement ici qu'on n'a pas de lien direct entre la teneur totale en cadmium dans le sol et la teneur dans le grain de blé. On peut avoir des sols, comme c'est le cas, je ne sais pas si vous voyez mon petit pointeur rouge, mais des sols où on a des concentrations faibles et dans les sols, donc, et des concentrations élevées dans la plante. Alors ça, c'est lié au fait que, déjà, l'élément cadmium va être prélevé par la racine sous la forme soluble. Donc il faut qu'il passe de la matrice solide à la solution. Or, dans la matrice solide du sol, il peut prendre plusieurs formes chimiques. Il peut être bloqué dans des minéraux. Il peut être aussi en surface d'argile, complexé par la matière organique. Et donc, sa forme chimique initiale, sa localisation initiale, va conditionner sa disponibilité. Donc, à teneur totale égale, on n'a pas la même disponibilité. Autre élément, pourquoi la plante va prélever le cadmium ? Tout simplement parce que le cadmium est un homologue chimique du zinc. Donc, le cadmium emprunte toutes les voies d'entrée du zinc. Alors, pour définir cette disponibilité, on a besoin d'indicateurs. Malheureusement, il existe peu d'indicateurs universels, je dirais quasiment pas. On a commencé par travailler sur des équations de pédotransfert qui marchent dans certains types de sols, qui ne sont pas forcément universels non plus. On a cherché des extractants, donc il y a différents types d'extractants, et Nicolas Proix nous a parlé hier de ces différentes familles d'extractants qui varient suivant les pays, mais il n'y a pas d'extractants universels non plus. Il y a une nouvelle approche que je trouve innovante, qui sont les capteurs passifs. Ce sont des petits capteurs, donc là je vous présente celui qui a été développé en Angleterre, qui s'appelle la DGT pour Diffusive Gel and Thin Films. Ça a été développé donc, par des collègues de l'université de Lancaster, et c'est basé sur donc un gel qui contient des résines que l'on va placer sur le sol ou enfouir dans le sol et qui va capter les métaux sur 24-48 heures. Et en utilisant ce type de capteur, on obtient sur sur des parcelles au champ des relations beaucoup plus sympathiques où on a une relation donc, entre la concentration qu'on trouve ici sur le blé au stade d'allage, donc dans les parties aériennes, et la concentration de notre indicateur. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des manières de gérer cette contamination et est-ce qu'il y a des paramètres qui pourraient limiter la contamination ? Donc là, je vais vous parler de deux paramètres importants, c'est le pH et la matière organique. Déjà, le pH, on a observé, donc soit sur différents sols, soit sur un même sol chaulé, que systématiquement, on avait sur des sols à tendance acide cette tendance-ci, à savoir plus le pH augmente, plus la concentration dans le végétal diminue. Alors, ceci, c'est vrai en sol acide. Par contre, en sol calcaire, on peut se retrouver avec des situations comme ceci, où on a des niveaux de concentration qu'on a du mal à comprendre. Alors, si j'ajoute à ceci la matière organique, et voici les résultats qui sont issus d'une étude de Casdar que nous avons menée avec le cétium, vous voyez très clairement que pour des sols où on a des apports de matière organique et qui sont à pH supérieur à 7, on va obtenir des concentrations plus faibles dans les grains de tournesol que les sols qui ne reçoivent pas de matière organique et qui ont un pH acide. Donc, en conclusion de cette partie, à pH plus élevé, la concentration en cadmium dans le végétal est souvent plus faible. Un apport de matière organique peut limiter le transfert vers la plante. Maintenant, je voudrais faire un petit focus sur la problématique de la fertilisation phosphatée et des rôles entre phosphore et cadmium. Donc, vous savez que les engrais phosphatés contiennent une quantité non négligeable de cadmium et se pose la question des effets sur le sol et sur les plantes. Et là, je vous présente le résultat d'une étude norvégienne où on a comparé donc, les concentrations mesurées en 1963 en bleu et en 1991 en rouge pour différentes modalités. Une modalité fertilisation phosphatée, fertilisation minérale au milieu, une modalité fertilisation organique à droite et une modalité sans apport. Et vous voyez que dans tous les cas, on a eu augmentation de la concentration et que le delta entre 1963 et 1991 est du même ordre de grandeur. Donc là, se pose la question de cet apport des apports de phosphore sur la concentration totale. Par contre, l'effet sur les récoltes, vous le voyez ici illustré sur les essais canadiens, qui sont intéressants parce qu'ils ont croisé l'effet dose, donc des doses croissantes, avec le niveau de contamination des engrais. Et vous voyez que si on utilise un engrais qui est très faiblement contaminé en cadmium, quel que soit l'effet dose, on a quelque chose ici qui est relativement plat, on n'a pas d'effet sur la concentration en cadmium dans le grain. Par contre, si on utilise des engrais phosphatés qui sont riches en cadmium, là on va avoir un effet. Maintenant, si on fait un focus sur la plante, et c'est là que les choses se compliquent et nous posent des questions, vous voyez dans le premier graphique en haut à gauche la relation entre la concentration en cadmium et la concentration en zinc. Et on s'aperçoit que plus il y a de zinc, moins il y a de cadmium, ou l'inverse. Donc on a une relation antagoniste entre ces deux éléments. Si on garde maintenant le zinc et le phosphore, vous voyez que plus il y a de phosphore, moins il y a de zinc. Donc on va avoir un jeu entre phosphore, zinc et cadmium, et on peut se poser la question, et là c'est le dernier graphique en bas à gauche qui vous montre les relations entre le rapport phosphore-zinc et la concentration en cadmium, il semble y avoir un effet seuil, et donc du coup, il serait possible, en jouant sur la fertilisation en phosphore, mais aussi en zinc, de contrôler ou de limiter le niveau d'accumulation du cadmium. Donc avant de terminer, je voulais vous présenter un dispositif que nous avons mis en place grâce à un projet CASDAR et ORMT CASAPROV, le réseau CASAPROV, dispositif sur lequel nous suivons les niveaux de contamination, donc en métaux mais aussi en mycotoxines, et sur lequel nous testons certaines des hypothèses dont j'ai parlé précédemment. Alors ce réseau est ouvert et vous voyez qu'il nous manque des points sur le territoire. Alors on a basé ce réseau pour l'instant sur les unités expérimentales INRA, les stations expérimentales Arvalis et Cetium et certains lycées agricoles. Si d'autres lycées agricoles, d'autres stations expérimentales veulent nous rejoindre, je les invite bien volontiers. Donc pour conclure, vous voyez que nous avons quelques pistes pour limiter la contamination. Déjà, il faut essayer de connaître la disponibilité initiale du cadmium dans les sols. Éviter absolument les pH acides, et là, le chaulage est indispensable. Contrôler la teneur des intrants et les flux apportés, et on vient de parler de problématiques autour de flux avec certains produits qui peuvent être apportés au sol, et je pense que c'est vraiment important. Et puis, favoriser les amendements organiques pour bloquer les métaux. Mais ces amendements organiques peuvent être des sources et des puits pour les métaux. Et donc, se posent vraiment de nombreuses questions concernant cet effet source-puits des matières organiques. Également, les bilans de masse. Donc, il ne faut pas seulement analyser les flux à la parcelle, mais aussi faire des bilans de masse un peu plus précis que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Essayer de prédire l'accumulation des récoltes, et notamment en sol calcaire, là où on n'est pas très très bon. Et puis comprendre les interactions avec la fertilisation phosphatée, les relations cadmium-zinc-phosphore. Pour terminer, je voudrais indiquer que ces notions de contamination ne doivent pas être seulement vues d'une manière négative. Je crois qu'il faut avoir aussi essayer de les aborder d'une manière un peu optimiste et se dire que, certes, on parle de contamination, derrière, il y a peut-être des réglementations, des contraintes, mais ça peut aussi être un atout pour l'agriculture si on est capable de dire qu'en gérant correctement ces sols, on va obtenir des cultures à faible niveau de contamination. Voilà, je vous remercie.
Merci, Laurence. Nous avons 5 minutes pour quelques questions.
À la salle.
La première que je vois.
N'oubliez pas de vous présenter.
Blandine Robert de l'INRA de Rennes. Une question toute simple relative au début de votre présentation. Quels sont les effets du cadmium sur la santé humaine ?
Alors, des effets sur la santé humaine, différentes maladies. La première est le cancer, de manière... Alors, quel type de cancer ? On n'en sait rien, puisque c'est quelque chose de cumulatif. Le cadmium attaque les reins. Et le cadmium ayant exactement la même taille que le calcium, il se substitue également au calcium dans les os. Donc, on fragilise les os, on attaque les reins et on a plus de chances de cancer.
Bon. Ça refroidit un peu. Est-ce qu'il y a d'autres ?
Oui, bonjour, Bertoni de NSAT. On sait depuis longtemps que les gisements phosphatés ne présentent pas les mêmes teneurs en phosphate. Alors pourquoi est-ce que la solution la plus simple qui serait soit de demander aux industriels de nous vendre des phosphates moins riches en cadmium, soit de sélectionner des gisements intéressants parce qu'ils sont pauvres en cadmium, pourquoi cette solution n'a pas plus de succès ?
Je n'ai pas la réponse parce que je ne suis pas industrielle. Je pense qu'une des questions tourne autour de la réglementation. Généralement, on force un petit peu les choses quand il y a une réglementation qui est décidée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais je pense, il y a peut-être des industriels dans la salle qui peuvent répondre et compléter, parce que là, je ne suis pas compétente.
Oui, bonjour, Daniel Hanoc.
Peut-être il y a une réponse sur...
Oui, Gilles Poitvin, délégué général de l'UNIFA, je vais essayer de répondre aux des industriels, même s'ils sont maintenant très peu présents en Europe. La première réponse à la question, c'est une question basique, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de gisements pauvres en cadmium pour alimenter le monde. Ça, je crois que c'est une question mathématique toute simple. La deuxième, c'est qu'il y a des procédés de décadmiation sur certains engrais phosphatés, ça ne marche pas sur tous, et ces procédés de décadmiation sont extrêmement chers. Donc quand on connaît la pression économique qu'il y a sur les achats d'engrais, qui a conduit à une division par 4 des apports de phosphore en Europe, on ne voit pas très bien comment vendre un engrais, même 10% plus cher phosphaté, comment il va être accepté par l'agriculture. Voilà, je préfère ramener les choses sur le plan économique que sur le plan toxicologique et autres. J'ai juste une remarque, c'est qu'il y a certaines études qui montrent qu'il n'y a pas accumulation du cadmium dans les sols et que dans les sols très riches en cadmium, on a tendance quand même à baisser les teneurs. Mais ça, c'est une autre question.
Je crois que c'est ce que j'ai montré avec l'essai norvégien.
Merci. Il y avait une question à droite.
Ouais, Daniel Hanoc, Chambre d'agriculture de Bretagne. Moi, j'avais une question sur le graphique là, qui montrait qu'il y avait un impact du rapport zinc-phosphore là, sur l'absorption en cadmium par les grains. Et je voulais savoir si vraiment c'était ce facteur équilibre entre les éléments, parce que comme le phosphore apporte lui-même aussi du cadmium, lorsqu'on a des sols qui vont être plus riches en phosphore, ils auront eu aussi plus d'apport, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment le rapport phosphore-zinc qui est en cause, ou si c'est simplement une corrélation de fait avec des sols riches en phosphore, quoi.
Alors, excellente question. Et c'est bien le problème que l'on a, c'est qu'il y a énormément d'études qui sont faites aujourd'hui qui s'intéressent soit au sol, soit aux végétaux. Il y a très peu d'études qui font le lien entre le sol et le végétal. C'est ce qu'on essaye de faire via donc un peu le projet CasaProv, où on regarde à la fois le sol, les intrants, le végétal, et ça dans un esprit multi-élémentaire et multi-contamination, parce que ces données-là sont relativement rares. Et donc, je ne peux pas répondre à votre question, parce que je n'ai pas ces données sur cette étude. Voilà. Mais bon, dans quelques années, j'aurai les données sur mes propres études, donc je répondrai.
Je pense qu'on va prendre une dernière question tout en haut. Il y en a une ici aussi ? D'accord, deux questions. Alors.
Oui. Dominique Harouet, INRA. Par rapport à l'effet sur les sols calcaires, je pense qu'il y aurait des choses à creuser parce qu'on sait d'une part que les roches calcaires ont des teneurs initiales très différentes en cadmium selon leur géologie. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose à creuser sur la pédogénèse et la durée durant laquelle ce cadmium s'est accumulé dans ces sols-là. Enfin, on peut en discuter après, si tu veux.
Oui, donc il y a quelque chose à faire. Par contre, ce pourquoi je suis assez contente, c'est le résultat que je vous ai montré entre l'indicateur, donc capteur passif, et les plantes, parce que cet indicateur a été positionné sur des sols calcaires. Il y avait un sol assez, vraiment acide et deux sols neutres, mais tous les autres étaient calcaires, et on voit que là, on arrive à classer les sols. Donc, on arrive peut-être à simuler certains processus.
Dernière question ici.
Didier Touraine, Chambre d'agriculture, Doubs, territoire de Belfort. Vous avez présenté un graphique où on voit la part des effluents d'élevage non négligeables sur beaucoup d'éléments traces dans les sources de contamination. Et la question que je me posais, c'était est-ce qu'on sait donc la partie en marron. Le zinc et cuivre, on pense au lisier de porc. Par contre, par rapport au bovin, est-ce que ces contaminations proviennent de l'alimentation, du pâturage? Est-ce qu'on a des connaissances par rapport à ça?
Alors, c'est pas les sources ne sont pas très claires. Ça va être globalisé, en fait. Donc, il va y avoir à la fois l'alimentation de l'animal, donc les compléments alimentaires, les phosphates apportés, qui peuvent apporter du cadmium, après, ou d'autres éléments traces. Après, il y a l'environnement également et le cas du cadmium, si on a dans les bâtiments des produits qui ont été cadmiés, on peut avoir quelque chose qui va se retrouver dans l'effluent. C'est la même chose pour le plomb. Donc, c'est une origine diverse, on ne les connaît pas bien.
Est-ce que je peux profiter d'avoir le micro pour une question sur la déposition atmosphérique? C'est dans vos premières diapos. Il y a une diapo qui compare deux cartes déposition sur la surface totale, et ça semble, les niveaux semblent deux fois moins élevés sur les parcelles grandes cultures, à moins que ce soit... Alors, ça m'a interpellé. Pourquoi cette raison? Et puis, j'avais une remarque derrière, c'est que les dernières études, une étude de 2013 de l'Université de Louvain a refait des calculs sur les flux de cadmium qui arrivent au sol agricole, qui ont beaucoup diminué depuis 20 ans, pour deux raisons. La baisse de la pollution en cadmium atmosphérique, et donc la baisse des dépositions, et la baisse de la fertilisation phosphatée minérale, qui est très forte en Europe, moins 60%, qui a déjà été signalée. Et de ce fait-là, il semble dans cette étude qu'on ne soit plus dans une situation effectivement d'accumulation de cadmium dans les sols. Dans la plupart des situations, bien sûr, il faut nuancer les types de sols. Voilà. Mais c'est m'a interpellé pourquoi ces niveaux différents sur la surface totale ou sur les grandes cultures seulement.
Alors, je ne pourrais pas rentrer dans les détails sur pourquoi il faudrait aller dans... Donc là, vous avez le lien sur le site. Mais j'étais assez intéressée de trouver ces résultats. Et en particulier, le résultat que vous voyez à gauche globalise tout, et notamment les forêts. Il faut savoir que les forêts filtrent l'air et donc, du coup, ont des niveaux d'accumulation en sol forestier qui sont beaucoup plus élevés que des sols de grandes cultures qui sont une partie de l'année, qui peuvent être sols nus ou avec peu de surface pour filtrer l'air. Donc je pense que c'est lié à ça. Alors après, sur votre deuxième question sur les flux, effectivement, les flux baissent. Et puis ce qu'il faut regarder, ce n'est pas seulement les flux entrants. Et ça, c'est ce qu'on a trop tendance à faire, mais aussi les exportations. Et dans l'étude que je vous ai présentée sur le Casdar, on a fait ce travail-là, et on s'aperçoit que pour certaines cultures, en particulier pour le tournesol, on est quasiment à l'état d'équilibre entre ce qui rentre et ce qui part. Donc là, c'est des choses qu'on voudrait compléter. Voilà.
Bon, je pense que c'est un sujet très intéressant, mais qu'on va clore pour l'instant. Merci, Laurence.